franceinter.fr.
Bonjour à tous. Dans 10 jours exactement, le 15 mars, les électeurs néerlandais vont désigner leurs 150 représentants à la seconde chambre des États généraux. Il s'agit en fait de leurs élections législatives et elles s'annoncent très serrées. Quel que soit le résultat, le vainqueur devra conclure des alliances pour gouverner. Selon les sondages, le parti VVD de l'actuel Premier ministre libéral, Mark Rutte, est au coude à coude avec le PVV, le Parti pour la Liberté, dirigé par le populiste Geert Wilders, qui a promis, dans un discours retentissant, de débarrasser le pays de « la racaille marocaine », c'est son expression. Aux Pays-Bas, comme partout dans une Europe en crise, se manifestent de plus en plus ouvertement des velléités de fermeture des frontières et d'abandon de la monnaie commune. La question de l'accueil des migrants prend d'ailleurs une place centrale dans le débat politique des dernières semaines de la campagne. Après l'élection de Donald Trump aux États-Unis, après le Brexit en Grande-Bretagne, toute l'Europe va donc braquer ses regards vers ce scrutin. Le vote des quelques 13 millions d'électeurs néerlandais est le premier d'une série qui s'annonce capitale pour la cohésion de l'Union européenne avec la présidentielle et les législatives du printemps en France et les élections fédérales allemandes du début de l'automne. La Hollande, l'autre pays du populisme, c'est un reportage de Pierre Benazet au cœur de la société néerlandaise en pleine campagne électorale.
Interception, le magazine de la rédaction.
Je ne promettrai rien aux Pays-Bas pour cette campagne, sauf une chose, et c'est que nous referons nôtre les Pays-Bas, que nous fermerons nos frontières, et que tout l'argent que nous donnons à l'étranger, des milliards à l'Afrique, à l'aide au développement, à Bruxelles, à la Grèce, aux demandeurs d'asile, tout cet argent va s'arrêter, et nous allons donner tout cela aux Néerlandais, ici, dans ce pays.
Dans le quartier Rembrandt à Alkmaar, en Hollande septentrionale, Beatrice Ehrens et les membres de la section locale du parti écologiste GroenLinks font du porte-à-porte et les conversations courent souvent sur Geert Wilders, le leader du PVV, Partij voor de Vrijheid ou Parti pour la Liberté, et sur ses propos lors de sa dernière intervention à la télévision.
Bonjour, je m'appelle Béatrice de GroenLinks. Je peux vous poser quelques questions?
Oui, très brève.
J'ai des journalistes français avec moi, ils peuvent écouter?
Bien sûr.
Venez.
Je vais pas traduire.
Oh, ils vont le faire. Bonjour. Vous allez voter aux législatives?
Oui, certainement.
Super. Et quels sont les sujets importants pour déterminer votre choix de parti?
Je trouve les soins de santé très importants. Qu'il y ait assez d'argent. Mais aussi qu'on soit ouvert aux étrangers. C'est, je trouve, deux thèmes très importants.
Et aussi qu'on s'intéresse aux études universitaires et supérieures. Moi, ça m'énerve, cette affaire, que ce soit pour les riches. Ça devient de plus en plus pour les riches. Ou alors les jeunes doivent emprunter et ils ont une dette de 30 000 euros à la fin de leurs études.
Oui, c'est un thème que je trouve important. Je trouve que ce n'est pas nécessaire qu'on paye pour les études d'un fils de médecin, par exemple.
Ah non.
Mais les soins de santé et les demandeurs d'asile sont aussi des sujets importants pour nous.
Ah oui.
Savez-vous si vous voteriez pour GroenLinks?
Oui, certainement.
Ok, super.
Mais on n'est pas encore certain. On a regardé hier les choix et on penche pour GroenLinks.
Moi, trois partis, dont GroenLinks.
Yes, Claver répond à nos soucis.
Alors, je vous donne une belle photo de lui sur notre tract. Merci.
J'espère que ça va marcher pour vous.
En tout cas, on votera sûrement pas pour le PVV.
Bon, le PVV baisse un petit peu dans les sondages.
Et je trouve ça bien.
Je suis dans l'entraide et je trouve que tout le monde a sa place sur Terre. Et le monde appartient à tous. Ce qu'il faut, c'est que les gens se rassemblent et fassent des choses ensemble. Et il y a cet homme aux États-Unis qui remet en question tout ce que nous avons construit. Et je trouve que Geert Wilders ici est aussi en train d'enfoncer un coin dans notre société. Je trouve ça très dommage.
Succès,
en tout cas, bonne chance.
Merci.
Vous aurez ma voix.
Ah, c'était une chouette discussion.
On est maintenant à Amsterdam Sud, dans un quartier de bureaux, et on va voir Geert Wilders qui se présente cette année aux législatives pour le parti travailliste.
Ik ben aan een afspraak met Geert Wilders.
Ja, ze komt eraan.
Oké, dankjewel.
Ik kan dat doorgeven, dat is net de juiste persoon.
Oké.
Ik ben Geert Wilders. Ik sta kandidaat voor de Tweede Kamer.
Je suis Geert Wilders. Je suis candidate du Parti travailliste pour les élections à la deuxième chambre. Je travaille pour une organisation qui s'occupe de personnes vulnérables et j'ai décidé de me lancer en politique car aux Pays-Bas, on va dans une direction qui me déplaît. Je vois que les gens sont mis en concurrence, qu'on leur dit débrouille-toi. Or, moi, je suis fière des Pays-Bas où on se soucie des autres, où on prend soin des autres et c'est une vraie tradition bâtarde de solidarité. C'est pour ça que je veux agir politiquement. On voit aujourd'hui dans les sondages que les partis de gauche ont peu d'intention de vote. Ça peut encore changer parce que c'était pareil la dernière fois, avant les dernières législatives, mais ça a de quoi nous inquiéter, ainsi que la popularité des courants de droite ou nationalistes.
C'est un phénomène très lourd, le populisme dans cette campagne. C'est un phénomène qui commençait au début du XXIe siècle. Ça pèse sur la campagne ?
Naturellement, oui, ça a tout le temps à voir en ce moment avec Geert Wilders et son parti, le PVV, qui a toujours été populiste. Mais on voit bien que son courant de pensée paraît de plus en plus normal. Il y a quelques semaines, le premier ministre libéral, Mark Rutte, a écrit une liste aux Néerlandais publiée dans tous les journaux où il dit soudain, lui aussi, que tous les immigrants qui ne se comportent pas normalement doivent partir, bien qu'il s'agisse de Néerlandais, de gens qui habitent ici et qui sont chez eux, ici, et qui en général apportent une très bonne contribution à notre société. Et on voit que le courant de pensée, les idées de Geert Wilders, qui étaient ressenties initialement comme extrémistes, elles sont reprises maintenant par beaucoup de partis. Et je trouve ça beaucoup plus dangereux que Geert Wilders lui-même. Il se pourrait bien qu'il ne devienne pas le plus grand parti, mais je trouve préoccupant qu'un parti raisonnable comme le VVD libéral s'exprime aussi de cette façon au sujet d'autres gens, d'autres Néerlandais.
Est-ce que vous avez des plans spécifiques pour l'intégration pour l'accueil des demandeurs d'asile?
Si on parle des demandeurs d'asile, on dit en principe que tous ceux qui ont besoin de sécurité doivent pouvoir demander l'asile. Mais ce que nous avons fait aux Pays-Bas, c'est de prévoir de très grands centres pour accueillir les réfugiés. Nous pensons qu'il faut faire beaucoup plus pour leur proposer un accueil dans des centres plus petits, pour mieux les répartir à travers tout le pays, pour que les villages et les villes puissent contribuer. Nous voulons aussi proposer l'intégration à partir du premier jour. Et on a déjà commencé en disant que les demandeurs d'asile qui arrivent ici doivent pouvoir avoir un travail bénévole, doivent pouvoir apprendre la langue, parce qu'en fin de compte, ça nous apporte beaucoup plus si on peut intégrer des gens immédiatement. Il faut dire aussi que dans le flux des réfugiés, il y a des gens qui viennent de pays sûrs, comme par exemple du Maroc ou d'autres pays, et ces gens, on doit juste les renvoyer, leur dire « vous n'avez pas votre place ici ». Nos centres d'accueil ne sont pas faits pour ça, nous devons avoir la capacité d'accueillir ceux qui en ont vraiment besoin.
Nous sommes ici à Amstelveen, au sud d'Amsterdam, dans un quartier résidentiel, où nous allons rencontrer l'essayiste René Ter Stegen, ancien éditorialiste du journal Het Parool, qui est un observateur attentif de la vie politique française comme néerlandaise.
roi des populistes qui ont su exploiter un certain malaise parmi les populations. Celui qui a su exploiter ces malaises au plus haut point, c'est M. Geert Wilders. C'est ce qui le maintient dans le centre de l'intérêt et l'espoir. Chaque deux ou trois jours, il envoie un nouveau tweet plein d'horreur sur les musulmans, par exemple. Hein? Il est un grand admirateur de Marine Le Pen, bien entendu, mais elle se montre beaucoup moins excessive que lui. Contrairement à M. Wilders, elle se garde bien de prôner, par exemple, la fermeture des frontières pour les musulmans, ou d'interdire le Coran, interdire les écoles islamiques, ou interdire la construction de mosquées, ou, comme l'a fait M. Wilders, de promettre d'expulser le plus grand nombre de Marocains possible. Elle ne ferait pas ça. Elle est trop, comment dirais-je, responsable. C'est une politicienne sérieuse. Et à côté de M. Wilders, Mme Le Pen fait figure de modérée.
Parce que, est-ce que c'est une opinion répandue dans la population, le fait de dire que les étrangers ou les personnes d'origine étrangère ne s'intègrent pas assez?
Oui, mais c'est un reproche qui, au début, il y a encore quelques années, était réservé à la droite ou même l'extrême droite, mais qui est devenu assez ordinaire, assez courant parmi la classe politique dans sa totalité, y compris par M. Wilders. Et le climat était bienveillant au début. Beaucoup de gens pensent qu'ils ne font pas assez pour faire partie du pays, qu'ils manquent de respect aussi envers leur nouvelle patrie. Mais il y a aussi dans ce pays de bons exemples en matière d'intégration des soi-disant minorités. Ainsi, le maire de Rotterdam est né au Maroc, tout comme la présidente de la Chambre des députés. Mais sur un niveau national, les résultats laissent à désirer. Par exemple, les deux tiers des participants étrangers échouent à l'examen obligatoire d'intégration, pour lequel ils ont tout de même 3 ans à se préparer. Et le populisme croissant et une attitude plus sévère des autorités envers eux ont contribué à un sentiment de harcèlement parmi les étrangers, ou les enfants, ou les petits-enfants des immigrés, on les qualifie toujours comme étrangers. C'est injuste, mais c'est comme ça. Donc le climat, ces dernières années, s'est considérablement durci à leur égard.
René Terster, est-ce que le succès électoral prévu de Geert Wilders peut pour autant l'amener au gouvernement, l'amener dans une coalition ?
Il pourrait gagner les élections, mais il n'obtiendra probablement pas le pouvoir. Car pour gouverner aux Pays-Bas, avec la multitude de partis, presque une trentaine qui participent aux élections, n'est-ce pas ? Ils sont un système électoral à la proportionnelle, hein, que Mme Le Pen appelle ses vœux. Des alliances entre au moins 2 partis s'imposent pour avoir une majorité au Parlement. Et aucun parti important ne voudra lier son sort à M. Wilders.
Alors ici sur la sonnette, c'est apparemment aussi un immeuble résidentiel. Une de ces petites maisons sur les canaux Amstelodamois. Et le rez-de-chaussée, c'est Forum for Democracy. Le siège donc du parti fondé par Thierry Baudet l'an dernier, en vue probablement de ces élections législatives qui arrivent.
Alors, excusez-moi pour tout le retard.
Non, je vous en prie, déjà nous on est arrivé au numéro 40.
Oui,
parce que j'avais mal noté dans mon agenda.
En tout cas, nous avons le temps avec nous.
Bon, ça c'est chouette.
Donc là, ce sont les posters et tout notre matériel de promotion.
C'est tout neuf, sorti des presses.
Oui. Vous avez commencé quand le parti? Parce que au départ, Forum pour la démocratie, c'était...
Ah, okay. Mais le Forum, comme réseau de pensée, était déjà fondé en octobre 2014.
Ah oui, ok. Si on devait vous classer dans une case qui corresponde à la politique française... Vous êtes plutôt un intellectuel de droite, vous êtes souverainiste. Est-ce que c'est la meilleure définition ?
Souverainiste, c'est très important pour moi. Je pense que sans la souveraineté nationale, nous ne pouvons pas avoir une démocratie fonctionnante et un état de droit répondant aux sentiments de la société. Mais aussi, en plus de ça, en plus d'être souverainiste, je pense que maintenant, je suis aussi développé comme activiste démocratique. Nous avons besoin d'un instrument pour corriger les élites politiques. Et le référendum est l'instrument pour faire ça. Après le référendum d'avril sur la traité d'association avec l'Ukraine, nous avons conclu que c'était absolument nécessaire de fonder un parti politique parce que la politique traditionnelle, les partis établis, n'écoutaient pas du tout la voix du peuple. Et c'est aussi pour ça que notre premier point d'agenda, c'est d'introduire la démocratie directe dans notre constitution.
Vous avez déjà aux Pays-Bas une nouvelle possibilité constitutionnelle, oui. La pétition qui contraint le gouvernement à organiser un référendum. C'est déjà un changement assez considérable, oui. Et ça a eu un effet considérable.
C'est vrai. Mais maintenant, aux Pays-Bas, nous pouvons uniquement organiser un référendum sur une loi qui a été passée par le Parlement. Donc c'est réactif. Ce que je propose, c'est de aussi donner aux citoyens la possibilité d'organiser un référendum initiatif. Donc ils peuvent, dans notre proposition, dire « nous voulons bien avoir un référendum sur, par exemple, l'euro, la monnaie unique ou les frontières ouvertes ». Des grandes questions qui sont évadées par la politique. Et comme ça, les citoyens peuvent avoir un contrôle sur l'agenda politique.
La souveraineté, ça veut dire quoi? Ça veut dire moins d'Union européenne, ça veut dire plus de frontières, ça veut dire moins de nouveaux venus, moins d'immigrés. Qu'est-ce que ça recoupe exactement pour vous, la souveraineté nouvelle que les Pays-Bas devraient avoir?
Alors, nous sommes pour un exit, donc quitter l'Union européenne. Nous sommes en train d'être soumis dans une union fédéraliste continentale. Ce que nous voyons maintenant, c'est que nous n'avons pas de contrôle du tout sur quiconque vienne dans notre territoire. Ce sont parfois des terroristes, ce sont des gens qui ne viennent pas du tout des pays en guerre. Et nous ne pouvons pas contrôler ce qui reste dans notre territoire. Donc, nous avons besoin de rétablir des contrôles de frontières. Et puis, nous avons besoin d'une vision d'immigration. Qui est-ce que nous voulons dans notre pays? La nation néerlandaise est menacée par l'immigration et les problèmes d'intégration de ces groupes.
On a entendu beaucoup de déclarations de Geert Wilders qui veut, par exemple, renvoyer le plus de gens possible chez eux, couper l'immigration provenant des pays musulmans. Ça, c'est quelque chose sur lequel vous le rejoindriez ou vous êtes plutôt pour l'intégration de ceux qui sont déjà là et le contrôle postérieur?
Les deux. Nous avons dans notre programme politique un chapitre qui s'appelle « Immigration et rémigration ». Si l'intégration ne réussit pas, rémigration est la meilleure option, je pense. Cela dit, je ne pense pas que fermer tous les mosques, fermer toutes les écoles islamiques, censurer le Coran, c'est ça ce que M. Wilders propose, est la bonne direction. Ce que nous proposons, c'est une alliance avec les institutions islamiques d'accepter les 5 valeurs du Ouest, où parfois la culture islamique est en conflit. Donc l'égalité fondamentale des femmes et des hommes, la suprématie des lois de l'État laïque vis-à-vis les lois religieuses, troisièmement, le droit d'apostasie, donc de changer de foi, quatrièmement, le droit de critiquer, ridiculiser ou analyser tous les textes et toutes les fois sacrales, et finalement, cinquièmement, le droit de tous les gens de choisir eux-mêmes leur partenaire d'amour. Nous ne disons pas, on veut interdire, on veut chercher une manière de développer un islam libéral en Occident.
Est-ce que vous accepteriez une coalition avec le Parti pour la Liberté, le parti de Geert Wilders?
Oui, absolument. Oui, nous étions ravis de former une coalition avec M. Wilders. Nous voulons bien coopérer avec toutes les parties qui sont ouverts à notre agenda de rénovation de notre constitution et notre souveraineté.
Thank you.
De son côté, Geert Wilders ne rate pas une occasion de dénigrer l'islam et toujours dans cette même interview télévisée, il appelle à la fermeture des mosquées et à l'interdiction du Coran.
Je fais toujours la comparaison avec un autre livre interdit aux Pays-Bas. Ce livre, c'est Mein Kampf, et les partis de gauche sont particulièrement heureux et fiers qu'à ce jour Mein Kampf soit interdit. Je dois vous dire aussi que c'est une idéologie terrible, pleine de haine, de violence et d'antisémitisme, et qu'il est interdit à raison, à part pour des usages à vocation universitaire. Mais il y a un autre livre qui contient beaucoup plus d'antisémitisme que Mein Kampf, un livre plein d'appels à la violence. Je ne suis pas en principe pour l'interdiction des livres, mais si aux Pays-Bas on interdit Mein Kampf, on doit le faire aussi pour le Coran. Et on le fera de la même manière. On ne va pas aller le confisquer chez les gens, mais on va, comme pour Mein Kampf, s'assurer qu'il ne puisse plus être vendu, qu'il ne puisse plus être utilisé que comme objet d'études académiques.
Ik ben nu in Utrecht. En dus verblijven de hele week lang in het land. En als het kan.
Donc on est ici à Utrecht, quartier Lombok, un nom qui rappelle le passé colonial indonésien des Pays-Bas, et on va à Kopi Susu, un café associatif où on va retrouver Anne Deschamps qui travaille pour l'aide aux réfugiés, Vluchtelingenwerk, et elle s'occupe des réfugiés mineurs.
Bonjour.
Anne.
Ça va, vous êtes essoufflée?
Non, mais c'est au bout de la rue en fait.
D'accord. Donc vous faites tous vos déplacements en vélo? Ça fait longtemps que vous êtes aux Pays-Bas?
17 ans.
17 ans, ouais, c'est pas mal.
Ça fait pas mal, hein.
On va se mettre à l'intérieur?
Ouais, c'est mieux. Il fait pas encore super chaud, quand même. Je vais mettre dans le fond de personne.
Je travaille depuis maintenant à peu près 6 ans pour une équipe qui s'occupe exclusivement des jeunes mineurs qui sont arrivés aux Pays-Bas non accompagnés et qui ont donc fait une demande d'asile. Et il y a quelques années, et ça a changé, et on a fait une séparation radicale entre ceux à qui on octroyait le statut de réfugié. À ce moment-là, ils étaient, leur prise en charge continuait sans problème. Et ceux qui n'avaient pas obtenu le statut de réfugié, eux, on ne leur accorde plus un permis de séjour, on les tolère sur le sol néerlandais. Là, moi, je vous parle des mineurs, qui c'est un groupe très particulier. La majorité des demandeurs d'asile et des réfugiés sont des majeurs. Et on note depuis plusieurs années qu'il y a eu un changement aussi dans la façon de prise en charge et d'intégration. Jusqu'à là aussi, la loi d'intégration qui a été modifiée en 2011, jusqu'à ce moment-là, c'était les mairies qui prenaient en charge les cours de langue et les cours d'intégration, tout ce qui concerne le Inburgering Examen, donc le diplôme d'intégration, en sachant qu'en néerlandais, on fait la différence entre intégration et Inburgering, qui ça va plus loin, Inburgering, on est plus proche de... On arrive à la notion de citoyenneté, donc ça va quand même plus loin que la langue. Ça, c'était pris en charge auparavant par la mairie. Et ça, on l'a complètement mis à plat. Ça n'existe plus, le VVD est arrivé au pouvoir, donc il y a eu une coalition de droite, et la coalition de droite a dit non, là, vous êtes réfugiés peut-être, mais vous prenez en charge, responsabilité individuelle pour tous, donc vous payez, la mairie n'est plus responsable, et ne s'occupe plus, à la limite, il regarde, il supervise un peu ce qui se passe, mais c'est plus la mairie qui s'occupe des cours, tout ça va être complètement privatisé, et c'est vous qui payez. Alors vous avez quand même le droit de faire un prêt financier pour payer ces cours, parce que c'est quand même des cours qui reviennent à 5000 euros au bas mot, et qui sont obligatoires. Hein. Donc vous êtes quand même bien, bien, bien cadré. Hein.
Est-ce que ça veut dire que le fait de dire qu'on a réussi ce test de citoyenneté, c'est une garantie sur l'avenir ?
Dans le système actuel tel qu'il est posé, cet examen de citoyenneté n'a pas été conçu comme une garantie, mais elle a été conçue comme une restriction. Dans la loi des étrangers, il est utilisé comme condition au renouvellement ou à l'accès à un permis de séjour à durée indéterminée. Tant qu'on ne l'a pas, on ne peut pas prétendre à un permis de séjour à durée indéterminée.
Thank you.
Utrecht, dans un quartier résidentiel, des grandes barres d'immeubles.
Oui, Tespir Benazev en France Inter.
Et nous allons rencontrer Haïla Bissabou Fedaï. C'est un jeune érythréen qui suit en ce moment un cours d'intégration et une formation pour s'intégrer aux Pays-Bas.
Une porte verte.
Haïla, goedemorgen. Wat is met u?
Van binnen goed met u. Aangenaam.
Is het meer aangenaam voor u in het Engels of Nederlands te spreken? Wat is het beste voor u?
Het is Nederlands.
Nederlands is beter?
Ja.
Ja, dus.
Je suis Haïla Bissabou, je viens d'Érythrée et je vis aux Pays-Bas depuis 3 ans. Je suis parti d'Érythrée par l'Éthiopie, le Soudan, la Libye, l'Italie et voilà, maintenant je suis là. Pour choisir ce pays, quand je suis arrivé, je ne savais pas grand-chose. Je ne savais pas quel était ce pays. Je suis juste venu, je voulais juste être en sécurité. Et quand je suis arrivé, j'avais moins de 18 ans, j'en avais 17. Et il y avait des gens pour m'aider dans des associations. Puis il y avait aussi pour m'aider quelqu'un de l'organisation Vluchtelingen Vert.
C'est Vluchtelingen Vert qui vous a aidé à trouver une formation, l'intégration, un logement ?
Au centre d'accueil, j'ai été ISK, l'école internationale pour les nouveaux arrivants, et à ce moment-là, j'ai eu de bonnes notes. J'ai montré mon carnet à ma personne référente pour lui demander de suivre une formation, et elle m'a orienté. Je suis maintenant une formation d'électrotechnicien. J'ai eu cette maison par la mairie et j'ai appris la langue à l'école. Il y avait d'un côté la formation et de l'autre côté les cours de langue. Mais on ne peut pas parler rapidement, il faut beaucoup apprendre la langue néerlandaise qui est très difficile.
Est-ce qu'il vous faut que vous fassiez le parcours de citoyenneté ?
J'ai eu un an de formation et j'ai fini le niveau 1. J'ai eu ce diplôme. Quand on a réussi le diplôme de niveau 1, on n'a pas besoin de suivre le parcours d'intégration. Je suis déjà en train de rechercher un emploi, il faut que je termine toute la formation, mais après je chercherai du travail.
Comment est-ce que vous ressentez l'accueil qui vous a été réservé ici ? Vous avez l'impression que c'est une société accueillante ?
Je pense que les Néerlandais sont gentils, ils m'ont aidé, et je me sens bien. Je n'ai pas encore vu de discrimination, je n'ai encore jamais subi ça. Je veux juste continuer à vivre ici.
Nous sommes ici à Bijlmermeer, un quartier populaire de HLM au sud d'Amsterdam, et on va assister à un cours donné par Total Inburgering, une organisation, une association qui s'occupe de donner des cours de langue, de civilisation, une société néerlandaise aux candidats à l'asile.
Peut-être comme dans votre propre pays, nous avons ici des partis à gauche et des partis à droite.
Left wing, right wing. We noemen ze ook al progressief.
On les appelle aussi les progressistes.
Progressieve willen
les progressistes veulent le changement. Et les autres, ce sont les conservateurs.
We willen het houden.
Nous voulons garder les choses comme elles sont. Nous voulons nous protéger. 150. Donc, pour former un gouvernement, il faut la moitié des sièges de la deuxième chambre plus un. Donc, on a 76 députés nécessaires pour un vrai gouvernement. Ça signifie que le plus grand parti, plus encore un parti, plus encore un parti, par exemple, PVV 40, plus 20 d'un autre parti, on est donc à 60. Peut-être encore 16 d'un autre parti encore. On est à 76 et là, vous avez un gouvernement, une majorité. On appelle ça une coalition. Donc les partis travaillent dans le gouvernement, ils font les nouvelles lois. C'est la coalition, la coopération. De l'autre côté se trouve l'opposition. Ce sont les autres partis qui ne siègent pas au gouvernement, mais bien à la deuxième chambre. Donc, la deuxième chambre, c'est la coalition plus l'opposition. 76 ou plus, plus le reste. La plupart des partis ont dit « Nous n'allons pas gouverner avec le PVV ». Que va-t-il donc se passer?
Pourquoi est-ce que vous donnez aujourd'hui une leçon à vos élèves alors qu'eux, ils n'ont pas la perspective de voter sous peu? En tout cas pas à ces élections-ci.
L'examen d'intégration a 6 parties. Lire, écrire, écouter, parler au niveau B1 ou B2, connaître la société néerlandaise, mais aussi l'orientation sur le marché du travail. Et cette leçon est très importante pour la connaissance de notre société. Surtout, il y a souvent des difficultés linguistiques, comme on voit ici au tableau ou dans le journal électoral. On trouve des mots qui peuvent être importants pour leur examen de lecture.
Je krijg bij die stampas ook een lijst met namen. Op deze lijst kun je zien op wie je kunt. Wie je kunt stemmen.
On vient d'entrer à De Tuyter, qui est un centre culturel, une salle communale, à Krimpel aan den IJssel, entouré de canaux. Et dans ce centre culturel, nous allons rencontrer Ahmed Marcouche, député d'origine marocaine, qui va nous parler d'intégration et de la citoyenneté des nouveaux venus aux Pays-Bas.
Mon nom est Ahmed Marcouche. Je
m'appelle Ahmed Marcouche, je suis né en 1969 au Maroc. Mon père était arrivé ici comme travailleur immigré dans les années 60. Et en 1979, dans le cadre du regroupement familial, nous sommes arrivés à Amsterdam. Quand je vivais au Maroc, je n'allais pas à l'école et à 10 ans, j'étais analphabète. En 1979, j'ai pu aller à l'école pour la première fois et c'était à Amsterdam. Nous avions au Maroc un rêve néerlandais et j'ai découvert que le rêve néerlandais était une réalité, mais avec du sang, de la sueur et des larmes, comme on dit en Hollande, c'est-à-dire qu'il faut travailler dur. Dans les premières années, j'ai surtout appris le néerlandais et en ce temps-là, il n'y avait pas d'intégration, il n'y avait pas de loi, pas de devoir de faire le parcours de citoyenneté. J'allais juste à l'école comme tous les enfants et j'étais très motivé pour apprendre. Ça m'a aidé à apprendre vite la langue néerlandaise. Et j'ai réalisé que la société néerlandaise était une société d'opportunités. Alors, j'ai saisi ma chance à bras-le-corps.
Vous parlez d'un rêve néerlandais quand vous étiez au Maroc. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un rêve néerlandais ?
Un rêve néerlandais, c'est un rêve qui rend possible une vie meilleure. C'est utiliser au maximum ses talents. C'est accéder à un job, à un emploi, à une vie positive. C'était mon rêve et c'était le rêve de beaucoup d'enfants dans mon village de Beni Bouyafar dans le nord du Maroc. Et quand je suis arrivé ici, j'ai réalisé la chance que j'avais de pouvoir venir en Hollande. Et là, on peut faire quelque chose de sa vie. On peut, quand on est un gamin de 10 ans jamais scolarisé, qui n'a jamais tenu un crayon en main, on peut commencer l'école à 10 ans aux Pays-Bas et en 2017 être candidat pour la troisième fois à la députation. Je ne suis absolument pas unique. Il y a beaucoup de gens comme moi qui ont saisi leur chance. Mais ce n'était pas une politique. C'était juste la possibilité d'aller à l'école. Aux Pays-Bas, rien n'est donné, je ne le crois pas en tout cas. Mais je crois en revanche qu'on peut saisir sa chance pour réaliser ses rêves.
Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui ça a changé dans les Pays-Bas que vous décrivez, les années 70, 80, 90 encore, la société ouverte, la réputation des Pays-Bas, c'était ça. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler des gens comme Geert Wilders. On parle beaucoup du discours de Pim Fortuyn il y a 10 ans sur le pays est plein. Est-ce qu'il y a un changement de mentalité? Est-ce que la réalité des nouveaux arrivants est différente de celle que vous avez vécue? Est-ce qu'il y a moins d'intégration possible ou au contraire plus aujourd'hui?
La success story a sa part d'ombre. Parce qu'il y a un groupe, et c'est une minorité, mais c'est une grande minorité qui ne s'en sort pas. Ce sont par exemple des Néerlandais issus de l'immigration qui se radicalisent, ou qui sont dans la criminalité, qui créent de l'insécurité dans certains quartiers. Ce sont des gens qui ont apporté des attitudes culturelles qui sont en choc frontal avec celles des Pays-Bas. Et ça a créé de nouvelles priorités pour certains partis. Et puis il y a eu Pim Fortuyn et Geert Wilders, qui en fait utilisent les peurs et les tensions dans certains quartiers et qui en font leur politique. Ils font comme si c'était vraiment explosif et ça donne l'impression qu'il y a un problème insoluble. Wilders parle d'islamisation de la société néerlandaise. Mais la société néerlandaise ne s'islamise pas. Ce sont les musulmans qui se néerlandisent.
Est-ce que vous pensez que les Pays-Bas ont suffisamment réfléchi à l'intégration? Est-ce qu'on a forcé les gens à s'intégrer ou est-ce qu'on ne les a pas un peu trop laissés vivre dans leur coin sans les impliquer dans la société?
Je suis de l'école qui pense que l'intégration a bien réussi, en général. Mais je ne nie pas l'existence de problèmes. Il y a des tensions dans certains quartiers. Les gens ont peur de l'islam car ils voient qu'au nom de l'islam, certains menacent la société. Et ce ne sont pas d'ailleurs forcément des gens venus de l'extérieur. Ce sont des jeunes nés dans cette société. Le meurtrier de Theo van Gogh était quelqu'un de notre ville. Donc d'un côté, il faut garantir la sécurité en agissant à temps contre la radicalisation des jeunes. Il faut étouffer dans l'œuf la menace terroriste. Mais de l'autre côté, la communauté musulmane a la tâche spécifique de se lever contre ceux qui détournent leur foi.
Nous sommes en route pour Haarlem, ville
à mi-chemin entre Amsterdam et la mer,
et on va rencontrer Fouad Béchara qui fait partie du réseau des héros d'Amsterdam. C'est un musicien, un artiste qui est aussi connu sous le nom de Atta de Tolk et qui met en œuvre des projets pour aider les jeunes à sortir de la rue. Il est aussi musicien, rappeur en particulier. Et on va le retrouver donc chez lui. Atche Straat. Comme toujours, les noms de villes indonésiennes, comme partout dans les quartiers des Pays-Bas. Il n'y a plus qu'à trouver une place. Voilà. Hop. Meneer Béchara. Goedemiddag.
Hoi. Staan jullie er al lang?
Nee.
Welkom.
Dankjewel.
Welkom, kom verder. Kom maar. Maar daar is de kapstok.
Oké. Sorry.
Nee, maar.
Ik ben Yezen Fouad Béchara.
Mon nom est Yezen Fouad Béchara.
Mon nom de scène est Atatürk. J'ai 32 ans, je suis né en Syrie. J'habite à Harlem, aux Pays-Bas. Je suis écrivain et artiste des mots et je m'occupe d'enseignement et des jeunes.
Vous vous occupez aujourd'hui de jeunes de la rue pour les aider dans leurs projets personnels et pour les faire grandir dans leur talent, vous appelez ça. Ce sont des jeunes d'origine étrangère ?
Ce sont effectivement des jeunes d'origine immigrée.
Straatjongeren, dat zijn ook Nederlandse jongeren.
Mais les jeunes de la rue, ce sont aussi des jeunes néerlandais d'origine modeste, entre guillemets.
Lagere komaf. Arbeidersbuurten, als deze
d'origine modeste donc, dans les quartiers ouvriers comme celui-ci, il y a les enfants d'ouvriers.
Kinderen. Ja, dat zijn uit deze wijken
et de ces quartiers provenaient dans les années 70 et 80 des criminels connus, des jeunes qui sont devenus des criminels de premier plan aux Pays-Bas. Donc ça a beaucoup à voir avec les conditions socio-économiques. Par ailleurs, ils sont aussi effectivement migrants, mais je trouve que ce n'est qu'une complication supplémentaire.
Comment elle est la vie des jeunes de la rue aujourd'hui, ceux avec qui vous travaillez, ceux que vous essayez de faire progresser? Ils sont toujours en échec scolaire, ils sont toujours avec un vécu de discrimination permanent?
Les jeunes d'origine étrangère ont le sentiment d'être discriminés, et ça se confirme dans la pratique quotidienne. Je l'ai vécu moi-même. Quand un jeune d'origine étrangère va dans un supermarché, il a une escorte à travers tout le magasin. Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un le suit. Du moment où il entre dans le supermarché jusqu'au moment où il est à la caisse, un employé le tient à l'œil. Par ailleurs, vous avez le profilage ethnique, ce qui est enfin un concept reconnu aux Pays-Bas. Vous avez par exemple des jeunes d'origine étrangère qui sont plus souvent contrôlés par la police dans certains types de voitures, etc., sans qu'ils n'aient rien fait. Et nous avons eu des discussions avec la police qui admet que ceci se produit. Ce sont des chefs de police, par exemple d'Amsterdam ou La Haye, qui reconnaissent que cela arrive et nous devons changer cela.
Est-ce que à plus court terme, vous pensez que ces élections-ci sont des élections vraiment à risque ?
Je pense qu'il y a certainement un danger qui passe inaperçu pour beaucoup. Si le PVV de Geert Wilders devenait le plus grand parti, des jeunes auraient la confirmation de leur idée qu'ils ne sont pas acceptés. Ils se diront que plus rien n'a d'importance et ils agiront de manière encore pire s'ils sont déjà sur une mauvaise pente. Mais c'est le groupe le plus restreint, car le plus grand danger, selon moi, vient d'un plus grand groupe de gens d'origine étrangère qui sont bien intégrés dans la société et qui pourraient se dire « ça n'est plus la peine, je vais exercer mes talents ailleurs dans un pays où je serai bien accueilli ». Et ils partiront peut-être ailleurs, pas forcément dans le pays de leurs parents. Si je ne suis plus le bienvenu ici, eh bien tant pis. Un problème des élections et l'éventuel durcissement et la possibilité d'émeutes n'est pas exclu. Si on voit ce qui s'est passé en France, les émeutes ne sont pas loin. Et à Amsterdam aussi, des voitures ont brûlé. À La Haye aussi, des voitures ont brûlé. C'est arrivé. Et je pense qu'avec ces élections, si on n'y prend pas garde, ça pourrait être la première fois que dans beaucoup de villes aux Pays-Bas, des jeunes pourraient vouloir aller à l'affrontement et se laisseraient échauffer par ceux qui sont déjà des fauteurs de troubles et qui appelleraient à l'émeute.
Kijk in de lucht, een vogel, een vliegtuig. Subsidiehaats, die blikken die zien er niet uit. Je hoopt het te maken als koning koopavond. Roofgraven, dat zijn mijn loonslaven. Hey, de game heeft de koning.
Ah, ze winnen, winnen, winnen. Dat is een
On est maintenant dans le marché du quartier populaire de Dapperswurt, dans Amsterdam-Est, et nous rencontrons Michael Heulen, il est vendeur ambulant de vêtements pour dames, et lui, même à contre-cœur, il va voter pour Geert Wilders. Aux Pays-Bas arrivent beaucoup de réfugiés, et on les aide et puis ils vont voler. Je ne dis pas qu'ils le font tous, mais 90%, et on les laisse rester. Chez nous, au village, on est 1200 habitants. Des réfugiés arrivent, ils se plaignent tout le temps. Ils réclament de pouvoir appeler au pays toutes les semaines. Et puis, au moment de l'été, ils sont partis chez eux, en vacances. Et puis, je vais vous dire, des réfugiés arrivent, ils sont déboutés parce que leur pays est sûr. Et le gouvernement est coupable. On les laisse refaire une demande et recommencer la procédure, et encore, et encore. Et puis, ils sont 5-6 ans dans les procédures, ils ont des enfants qui parlent couramment le néerlandais et sont intégrés à l'école, mais les parents savent qu'ils doivent partir. Je trouve ça pathétique. Ça ne doit plus être comme ça. Quand les gens sont déboutés, alors au bout d'un an et demi, dehors. Pas les laisser 10 ans dans les procédures.
Et donc vous, vous votez plutôt pour M. Wilders ?
Le PVV veut apporter des changements. Et Rutte a promis tellement de changements et jamais rien fait. Bon, Wilders ne peut pas grand-chose, j'en suis convaincu, mais il faut un vote de protestation pour qu'ils se réveillent tous. Quelque chose doit se passer.
C'est la première fois que vous allez voter pour le PVV ?
Exactement. Les autres années, j'ai voté pour d'autres partis, mais ils promettent tout et ne font rien. Je ne sais pas ce que Wilders peut faire, mais quelque chose doit se passer. On ne peut pas continuer comme ça. Ce qu'il a dit sur l'afflux des réfugiés, il faut les contrôler plus sévèrement. Je suis d'accord, de toute façon, ça doit arriver, bien qu'on soit en Europe. Les contrôles aux frontières doivent recommencer. Kijk in de lucht, een vogel, een vliegtuig. Subsidiehaters, die blikken, die zien het niet uit. Je hoopt het te maken als koning koopavond. Rookgraven, dat zijn mijn loonslaven. Hey. De game heeft een koning nodig. Boys op straat, die hebben een woning nodig. Ze blijft bij me, ze heeft er honing nodig. Ik heb het druk, ik heb een beloning nodig. Ik ben binnen... La Hollande, l'autre pays du populisme, c'était un reportage de Pierre Benazet. Prise de son Jean-André Giannettini, mixage Valérie Lavalard, réalisation Anne Lioro, assistée de Stéphane Combe et Zora Bensfaili. À la semaine prochaine.